Si je vous dis retail et innovation, ce n'est pas forcément naturel que se dire que ce secteur d'activité est très innovant. Et pourtant, quand on parle de création de tendances, de lancement de nouveaux produits ou encore de nouvelles façons de consommer, le secteur du retail et les marques qui sont distribuées dans le retail n'ont de cesse que de nous proposer des nouveautés tous les jours, de nouvelles manières de commercer ou de nouveaux produits. Alors ensemble, nous allons voir dans cet épisode comment dans le retail, repérer, sélectionner les meilleures innovations du marché, surtout celles qui sont plébiscitées par les consommateurs eux-mêmes. Vous écoutez la Retail Session du podcast Altavia Aura, le podcast des retail addicts qui veulent rester à l'affût des évolutions du commerce d'aujourd'hui et des tendances de demain. Je suis Ludovic Noël, le directeur général de l'agence, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Gelder, président de la société qui porte le label élu produit de l'année. Bonjour Philippe.
Bonjour Ludovic.
Alors Philippe, peut-être pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, me dire d'où vous venez et, question un peu rituelle chez nous, pourquoi les gens doivent vous croire sur parole?
Alors, je m'appelle Philippe Gelder. Certains disent Gelder parce que je suis né d'un père hollandais en Belgique et habitant en partie à Paris, en partie à Bruxelles. Et toute ma carrière a été dans la marque et le marketing. Et depuis 2016 maintenant, j'ai repris et racheté la société Les Produits de l'année qui va bientôt fêter ses 40 ans. Et pourquoi vous devez me croire sur parole? Bien simplement parce que je ne dis que la vérité, toute la vérité.
Ah ben c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui dit que la vérité. C'est magnifique.
Bah, vous savez, c'est plus facile de vivre en disant les choses vraies, en disant les choses que de créer des mensonges ou autres. Voilà. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est un peu aussi ce qui m'anime, moi. Notre logo doit être un logo qui dit des choses vraies et qui soutient des choses vraies, parce qu'on est en 2023 et on peut plus se permettre de mentir parce que ça se sait très très vite.
Évidemment.
Alors, et le drame, c'est qu'on crée des mensonges qui deviennent des vérités aussi. Donc, on ne sait plus finalement ce qui est vérité et ce qui est mensonge. Mais nous, en tout cas, on est dans ce business pour que la voix du consommateur, certifiée par ce qu'on essaie d'être une méthodologie la plus aboutie, soit en fait crédible. Et c'est mon truc.
Très bien, vous êtes aligné entre vous et effectivement l'activité que vous présidez aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, une question off assez habituelle aussi dans notre podcast. Quelle a été la dernière information, le dernier événement ou la récente expérience que vous avez eue qui vous a un peu bluffé ou surpris et que vous vouliez partager avec nos auditeurs?
Écoutez, moi, ce qui m'a beaucoup surpris ces dernières semaines, c'est la manipulation médiatique du phénomène de l'inflation par les différents acteurs de notre métier.
D'accord.
Alors, je n'en cite pas l'un ou l'autre parce que moi, je suis fondamentalement pour la collaboration. Je pense sincèrement que les acteurs et les gens du métier doivent collaborer. La collaboration est bien plus bénéfique. Et je trouve dommage que, certainement en France, parce que on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais nous sommes donc propriétaires et responsables de satellite dans le monde, et on est sur près de 40 pays. Et donc, on observe que cette animosité ambiante et l'utilisation de l'inflation, qui, comme vous l'avez peut-être lu aujourd'hui, n'a jamais été aussi bas, cette inflation, depuis quelques jours, et c'est une courbe logique.
Oui.
Et ça m'a vraiment frappé. Ça m'a frappé de voir l'agressivité, la tension et la manipulation des médias. Et je pense que c'est dommage parce que, comme on disait tout à l'heure, il faut rester crédible, il faut dire les choses sincèrement, et je pense que la collaboration serait plus favorable.
Bien sûr. Merci pour ce partage et on va pouvoir effectivement rentrer maintenant dans le vif du sujet. Et d'abord, Philippe, pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre société? Parce qu'on parle bien d'une société, hein. Vous dites que vous avez racheté la société qui porte les logos produits de l'année. Et est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'est cette société, effectivement, visiblement, depuis une quarantaine d'années maintenant sur cette activité?
Ouais, quasi. Oui. Donc, en 1987, un Français a créé cette idée géniale de faire voter les consommateurs pour ce qu'ils estimaient être les innovations les plus percutantes de l'année. Et le logo est aujourd'hui, il est omniprésent dans le paysage français et puis aussi dans 40 pays dans le monde, puisqu'on a des licenciés un peu partout dans le monde. Ça représente un peu moins de 20 millions d'euros de revenus global.
D'accord.
C'est une petite équipe, c'est une centaine de personnes
avec
des licenciés
belle
dans
équipe.
Le monde.
Ouais.
Non, mais dans le monde, on est une quinzaine en Belgique, France, Hollande. Nous faisons la gestion propre de la Belgique, France, Hollande et on gère nos licenciés dans les autres pays. Et donc, si vous voulez, on a mis au point ce concept qui est l'écosystème de certification consommateur. Et donc, on veut donner à cette voix du consommateur un pouvoir de certification dans le sens où on est totalement neutre de toute industrie et on veut vraiment aller chercher la vérité consommateur ainsi que leurs attitudes, leurs évolutions par rapport à ce qu'ils jugent comme produit. Et d'ailleurs, on le voit chaque année, on voit cette tendance. Et cette vérité consommateur n'est pas forcément celle que les marques tirent ou que les uns ou les autres désireraient. Mais c'est comme ça. Et donc, les marques qui affichent ce logo voient en général leur chiffre d'affaires progresser en moyenne de 25%. Ça dépend des produits, ça dépend des positions de marché. Donc, c'est évidemment très efficace en termes de marketing.
On va y revenir. Quand on dit nouveauté, je crois que vous ciblez ça sur moins de 24 mois, c'est ça? Comment on qualifie cette notion d'innovation, de nouveauté sur le marché?
C'est en effet moins de 24 mois. Enfin, il faut que le produit ait été
sur le
en
marché.
Magasin. Voilà, 24 mois. Alors, en France, on a toujours cette dichotomie ou cette complexité du mot innovation. C'est-à-dire qu'on confond innovation, enfin, on dit innovation, on pense pas nouveauté. Et quand on pense innovation dans la langue française, ou en tout cas chez les marques français, on pense innovation de rupture. Et c'est faux. Enfin, il y a très peu d'innovation de rupture dans le retail. SodaStream a complètement disrupté la catégorie il y a quelques années, a ennuyé tous les grands opérateurs qui au final les ont rachetés. Comme toujours, mais il y a très très peu de disruption, il y a très très peu de
l'essentiel, c'est
de
des nouvelles saveurs, des nouveaux goûts, des nouveautés.
Oui, mais c'est
que
regardez, on a toujours dit Apple, c'est la plus belle innovation qui soit. Ben, regardez, chaque année, ils nous font le coup du, la nouvelle fiche, le nouveau truc, mais au final, voilà. Ça, c'est l'animation par la nouveauté. Du trafic, du retail, et c'est indispensable. L'innovation est indispensable pour faire mieux, pour aller à la rencontre de ce que veut le consommateur et pour suivre son évolution.
Bien sûr. Donc, élu produit de l'année qu'on a tous vu, en fait, sur les packagings et sur les publicités, est-ce qu'il y a des catégories à l'intérieur de ce élu produit de l'année? Est-ce qu'on va retrouver, effectivement, dans des familles de produits?
Alors, techniquement, nous, on n'utilise pas la notion de catégorie pour marquer un point qui est de dire qu'on est dans un environnement concurrentiel,
oui,
spécifique. Parce que la catégorie, dans le retail, Nielsen, GfK, Kantar, ils ont tendance à les définir, il y en a 400 ou 800. Nous, en fait, l'environnement concurrentiel, c'est ce que le consommateur peut identifier dans un rayon.
D'accord.
C'est-à-dire que, de toute évidence, un jus d'orange frais qui se trouve dans les frigos n'est pas la même chose qu'un jus d'orange ambiant. Et donc, on va pas comparer un jus d'orange frais à un jus d'orange ambiant, parce que le consommateur ne le voit pas comme ça. Et donc, pour nous, c'est important qu'il n'y ait, par exemple, pas 25 logos dans un même rayon. Donc, le consommateur doit s'y retrouver. Et donc, les catégories, par exemple, de 25 ou 30 catégories de dentifrice différentes, si nous, on suivait ça, ce serait pas bien. Donc, en fait, les catégories, nous, on les définit une fois qu'on a un participant, un candidat qui participe à l'élection. On va chercher les produits dans son environnement concurrentiel, qui sont logiques par rapport aux consommateurs. Il y a des marketeers qui nous disent, non, moi, je veux être dans ce type de catégorie, parce qu'il estime qu'il fait, je ne sais pas quoi, des croquettes, des gnocchis, des machins. Et donc, on dit, attendez, c'est pas vous qui définissez si vous allez jouer avec telle pointure, tel machin pour être sûr de gagner. Donc, on reste maître de nos catégories ou environnements concurrentiels.
Comprends. Si on passe un petit temps sur la manière de récolter finalement ce plébiscite côté consommateur, est-ce qu'on peut être un peu plus précis sur la manière dont vous constituez finalement ce palmarès? Alors, peut-être déjà sur comment les marques postulent, qui postulent de manière générale. Et puis après, je voudrais bien qu'on regarde comment vous organisez le vote des consommateurs, parce que je crois qu'il y a un vote, enfin une deux étapes principales par rapport à vous. Alors, d'abord, ouais. Les marques, qui sont les gens qui postulent à l'élu produit de l'année?
Nous, on a 15-20% de marques ou de produits qui nous appellent à chaque nouvelle élection, à chaque année logo. Donc ici maintenant au travail là 2024, et qui veulent participer parce que ils connaissent, et parce qu'en France c'est très connu, 9 consommateurs sur 10 qui connaissent, donc ils nous appellent pour participer. Mais principalement, nous on fait avec nos partenaires, on identifie, si vous voulez, toutes les nouveautés en magasin ou ailleurs, et on contacte ces gens pour être dans le palmarès. Ils doivent D'accord. participer, donc on les sollicite et ils payent pour participer au concours. Mmh. Et quand ils participent et qu'ils gagnent, à ce moment-là, ils payent une deuxième fois pour utiliser le logo, mmh. en fonction de leur taille. Mais et ils sont donc obligés de payer dès lors qu'ils sont gagnants, et ils peuvent utiliser ce logo qui leur donne des avantages pendant un an de croissance du chiffre d'affaires. Alors comment ça fonctionne? Il y a deux étapes principales. Les consommateurs sont sollicités par Nielsen IQ, ouais. qui va donc chercher à minima par produit 500 utilisateurs de la catégorie. D'accord. C'est-à-dire que si ce sont des serviettes intimes féminines, ce sont des femmes. Si c'est des produits sans gluten, ce seront des personnes allergiques au gluten. Très important, parce que c'est pas une masse de... Si on interroge 20 000 personnes en France, on va quand même chercher des gens qui sont concernés par ce qu'ils jugent. Bien sûr. Donc ça, c'est 500 personnes qui vont donner une appréciation de l'innovation en question, notamment par rapport à cet environnement concurrentiel.
D'accord.
Deuxièmement, on a un testing produit en situation réelle de consommation qui se fait au travers de l'application Trils, qui a été développée par nous et qui permet en fait à des gens de sélectionner un produit dont ils ont envie, d'aller l'acheter, le trouver en magasin, c'est important, de l'acheter, de scanner le code barre, le QR code de main, de scanner le ticket de caisse, de l'essayer chez eux dans le contexte dans lequel ils utilisent ce produit, où ils le mangent, et puis de l'évaluer. Lorsqu'ils l'ont évalué, on leur rembourse, et ceci, c'est 120 personnes minimum par produit.
Ah, par produit, d'accord. Donc, et ça, c'est sur la base, moi, Ludovic Noël, je peux m'inscrire sur,
non,
sur un
non,
site
en
pareil
fait, nous, vous... on fait appel par le produit, on va chercher par le produit des gens qui veulent
par
ce produit, et on a évidemment une base de données de Tritzers dans l'application Tritz, mais qui sont des gens qui ont mis leurs données, leur numéro de compte, etc. On peut éliminer si c'est géographiquement.
Donc vous avez quand même une communauté sur laquelle vous pouvez effectivement mobiliser, oui. comme des nouveaux qui chaque année rentrent dans cette communauté.
Voilà, mais ouais. pour si on met une pâte à tartiner en ligne pour une réduction et un testing, les 120 utilisateurs, ça dure à peu près 3 minutes. Hein.
Ouais. C'est ça.
Sur Facebook ou autre, on va les chercher. Il y a beaucoup de candidats.
Les gens adorent donner leur avis. Hein ouais, et deux, ce que ouais, vous ouais. dites, c'est que la gratification pour le consommateur qui participe sur la deuxième phase, hein, pas sur l'enquête Nielsen IQ, mais sur la deuxième phase, c'est le remboursement des produits qu'ils ont achetés.
Je ne pense pas que la gratification soit celle-là. Alors, ouais. bon, vous savez, 2 euros, 1 euro, ça joue, mais... il y a plein d'applis ou de réductions, etc. Non, ici, parce qu'ils doivent quand même remplir un questionnaire qui n'est pas rien. Et d'ailleurs, nos clients qui participent, ils ont chez eux au bureau cette évaluation qui vient en temps réel. C'est-à-dire que les testeurs, ils les voient arriver, donc c'est tout à fait transparent.
D'accord.
Et ils voient ce testing. Il y a des verbatims, etc. On peut l'utiliser après, c'est assez riche. Mais je vois, moi, que ces gens qui font ça sont des gens qui ont envie de participer. D'ailleurs, on fait pas parfois des appels comme ça pour des idées, des nouveaux produits que des clients nous demandent, etc. Puisque Trid est utilisé pour ça aussi. C'est excessivement puissant. Et il y a des gens qui aiment donner leur avis. Et quand j'ai dit en situation réelle de consommation, c'est important parce que il y a par exemple des marques qui étaient candidates, qui lancent le truc, et puis on a nos consommateurs qui disent on le trouve pas. Ils se sont dit, ben zut, on est très très mal repris dans la distri. Donc c'est aussi un outil de contrôle. Donc tout ça est très important parce qu'une marque qui est mal distribuée ne va pas forcément plaire aux consommateurs.
Intéressant si on passe effectivement du côté de la marque. J'ai entendu tout à l'heure que vous disiez croissance généralement constatée quand je suis produit élu de l'année, je vais l'appeler comme ça, c'est 25% d'impact sur les ventes l'année où je le suis. Hein. Donc ça veut dire que vous êtes en capacité de mesurer réellement l'impact de votre logo. De ce que j'entends là avec les gens qui sont qui participent à ce test, on va dire dans la vraie vie et en situation de consommation, c'est que la marque peut aussi récupérer des insights, peut récupérer aussi de la matière. Alors, côté mon distributeur, est-ce que mon produit est facilement trouvable effectivement dans ses rayons, est-ce qu'il y est, mais j'imagine dans les verbatims que c'est aussi une bonne richesse pour les marques. Donc, on peut dire que les marques qui rentrent dans ce dispositif, c'est bien sûr, on ne va pas se voiler la face, c'est une question d'augmentation des ventes. Mais deux, ça veut dire qu'ils peuvent aussi peut-être récupérer là des retours consommateurs qui peuvent les aider à améliorer les formules suivantes du produit.
Oui, je pense que bien sûr, c'est l'amélioration des ventes, mais encore une fois, c'est comme le loto, hein, 100% des gagnants ont joué.
Oui.
Et donc, c'est pas tout d'avoir le logo, il faut l'utiliser. Faut c'est sponsoriser une équipe de football, par exemple, ben, il faut le faire savoir après. Donc, bon, ça, c'est une chose. Mais je pense que il faut pas oublier, donc, en effet, la performance est importante, mais n'oubliez pas une dimension, c'est que il y a la fierté des équipes aussi. C'est très important aussi.
Vous avez raison.
Et par ailleurs, rassurer ses propres clients. Donc, tout ça fait partie d'un tout. Il est important qu'une marque, pour certains de ses produits, revienne souvent avec ce type de logo. Alors, il y a des secteurs, on parle de 25% d'augmentation des ventes, mais j'ai vu aussi du 700%. Là, on a Bic, par exemple, qui nous dit ouvertement 33%. On a Udim, qui est sur des très concurrentiels, 15%. C'est déjà très bien.
Oui, ça dépend du secteur d'activité, de l'intensité concurrentielle. Quoi.
Et je vous dirais, regardez les matelas. On a énormément de concurrents matelas. Ils se battent pour avoir le logo parce que ça fait une différence énorme sur Internet. Et en fait, au plus le produit, comme un pneu ou un matelas, vous savez, vous dites demain, quel matelas voudrais-tu? Peu de gens vont dire Tempur, Bultex, Epeda.
On ne sait pas.
C'est un peu... Ou vous allez demain changer vos pneus, on va vous dire, quel pneu voulez-vous, Ludovic?
Michelin.
Michelin. OK. Et le gars va vous dire, ben, j'ai des Yokohama ou des Coréens, machin, etc. Bon, vous avez peut-être imaginé que vous achetez une Hyundai et on vous propose des pneus coréens. Ben, j'ai la voiture. Why not? On les connaît pas bien. Et puis, vous voyez le produit de l'année. Bah, ça rassure. Donc, au moins, l'émotionnel est important. Au plus, le logo va rassurer. Donc ça, c'est vachement important. Mais bon, donc il y a plein de choses. C'est un peu biblique ce truc. mais bien évidemment augmentation des ventes. Mais je vois, on fait des soirées chaque année. Évidemment, on a les lauréats. C'est pas vraiment pour donner les résultats parce que on les connaît avant. Mais on voit que
c'est un moment d'engagement pour les
fédères. Voilà, surtout post-Covid. Hein, donc on offre cette soirée à nos lauréats. Et on est très heureux de les voir là, et c'est en général une belle fête. Ils prennent ça très au sérieux.
Ouais, je vois très bien l'engagement pour côté équipe et la fierté de voir un produit reconnu par les consommateurs. Encore une fois, c'est pas mes pairs et les retailers qui voteraient pour.
Voilà. Donc, et puis on a aussi fait une étude avec LSA qui nous disait clairement que dans le monde du retail, un acheteur qui voit un produit qui a été lauréat et le produit de l'année, il va avoir tendance à penser que voilà qu'il faut le référencer. Donc c'est important, surtout maintenant quand la place en rayon est de moins en moins disponible.
Bien sûr. J'imagine que produit élu de l'année, c'est aussi dans les logos, il y a des évolutions. Et je crois que récemment, vous avez lancé deux nouveaux logos. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Donc l'écosystème de certification consommateur, il a un axe produit et un axe marque. Et puis, Ces deux axes sont à la fois disponibles pour les marques nationales et pour les marques distributeurs ou les enseignes de distributeurs. Donc, ça fait quatre logos, élu produit de l'année, élu produit distributeur de l'année, élu marque de l'année, élu enseigne de l'année. Et donc, on a fait, il y a deux ans, marque de l'année, parce que notamment certaines marques, face aux pénuries, face à l'inflation, face aux bagarres que j'évoquais tout à l'heure entre les acteurs, à un moment donné, et puis vous savez, vous l'avez peut-être lu comme moi, les innovations en 2022 ont une réduction de 38%. Donc, il y a beaucoup moins d'innovations. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de place en rayon, parce qu'il y a eu moins d'investissement, parce que, enfin bon, plein de raisons. Et donc, il y a des marques qui disent, on va arrêter de pousser un ou l'autre produit, mais on va revenir sur la marque Ombrelle. On a une espèce de retour sur la marque Ombrelle, la marque Assurance, notamment en période d'inflation. Est-ce que ça, voilà. Et donc, un exemple intéressant, c'est Colgate qui fait ses campagnes avec le sourire, donc c'est très générique. Alors qu'il y a 5 ou 6 ou 10 ou 15 produits différents, blancheur des dents, gencives, etc. Donc on a, voilà, un retour un peu. Donc on voit qu'il y a des marques. Et puis autre chose aussi, il y a des marques qui sont vraiment heureux d'avoir ce logo, mais qui n'ont pas des innovations chaque année. Et donc ils peuvent aussi revenir sur la marque. Donc voilà pourquoi on a décliné ça. À côté de ça, on a aussi rajouté en dessous des logos un petit marqueur qui peut signifier le bio ou signifier Made in France. Parce que chez nous, on veut garder un logo unique, fort, reconnu, et puis des éléments stratégiques qui se rajoutent.
D'avoir des déclinaisons. Et le Made in France, lancé depuis combien de temps?
C'est pas un logo en tant que tel, c'est un ajout que vous pouvez mettre si vous êtes, voilà. C'est une petite signature complémentaire parce que nous, on veut pas démultiplier nos logos à un point tel qu'ils ne seront pas reconnaissables. Certains de nos amis font ça et à un moment donné, on s'y retrouve plus.
Côté marque distributeur, avant qu'on, j'aimerais ensuite qu'on s'intéresse plutôt à la dimension hors France, parce que évidemment notre session est plutôt à destination des acteurs du retail en France. Mais côté marque distributeur, justement, est-ce que ça pose question quand on a une marque, vous en avez cité un certain nombre, on cherche à être élu produit de l'année ou marque de l'année, et qu'en est-il des distributeurs français qui ont tous pour volonté en fait d'augmenter la part de leur chiffre d'affaires qui est réalisé à travers leur marque propre, hein, les fameuses MDD. Est-ce que là aussi, il y a beaucoup de marques qui sont présentes? Alors, comme vous le disiez, ce n'est pas eux qui peuvent postuler, puisque ça vient effectivement à travers votre processus. Mais comment place-t-elle finalement ces MDD?
Alors, il faut savoir que la France est un des pays en Europe les plus en retard en matière de part de marché MDD, puisqu'on est à, quand tout va bien, 30%, mais entre 20 et 30%, que si vous allez voir en Angleterre, en Espagne, en Belgique, en Hollande, on est à plus de 50%. Donc, très à la traîne, quantitativement et qualitativement. Pourquoi? Parce que c'est historique, il y a des gros acteurs, c'est hein, la France est l'inventeur de l'hypermarché, mais Leclerc a toujours été porteur des marques et a fait son business avec des marques, etc. Donc, c'est assez récent en France, cet investissement fort sur les MDD, et donc c'est parti très très fort. Mais par contre, on constate que les retailers, les distributeurs en France veulent en fait jouer dans la cour des marques nationales et se disent, après tout, nos MDD doivent aller contre les marques nationales. Alors, nous, on observe partout dans le monde que la MDD, quand elle est contre une marque nationale, elle perd généralement. Pour plein de raisons, D'abord parce que, par définition, une MDD a une part de marché qui est plus ou moins égale à l'enseigne et que la marque nationale est plus forte. Et deuxièmement, la marque nationale a un historique, une constance, etc., etc. Et puis, qualitativement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ils sont faits, hein, les distributeurs deviennent vraiment très performants. Ils sortent des produits qui sont d'ailleurs faits par les marques, hein, ou d'autres marques ou des marques spécifiques. Donc c'est très impressionnant, le marché est en train de bouger, mais il y a un gros retard en France et une espèce de frein par rapport au fait de d'être considéré comme une MDD. Alors ça a complètement changé cette année parce qu'on a parlé dans les médias des MDD. Donc le consommateur
sur la logique inflation, vous voulez dire, on a beaucoup parlé des MDD parce que c'est aussi moins cher. Parce que
Carrefour a annoncé qu'il voulait arriver à 40% en 2026, parce que Auchan veut arriver à 60%, bon, peu importe. Donc, il y a une vraie dynamique parce que c'est là où ils veulent faire leur marge. Et puis, vous savez, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais les MDD, on n'est plus sur la marque blanche. Mais le drame des MDD, c'est de faire du downsizing ou du down quality ou tout ce que vous voulez, et de faire moins de chiffre d'affaires. Si vous poussez des MDD pas qualitatifs, vous allez diminuer le chiffre d'affaires. L'idée, c'est de faire du MDD premium. Mm. Donc, c'est là toute
l'enjeu.
La marge sur les MDD. C'est tout l'enjeu. Alors après, il y a eu la guerre qui a fait que les prix ont augmenté, puis il y a l'inflation, puis les bagarres. Enfin, tout ça est très, très complexe. Mais ce que je veux dire, c'est que les distributeurs ont choisi ce créneau-là pour regagner un peu la marge qu'ils ont perdue. Il faut quand même savoir qu'un distributeur, en moyenne, quand il fait ça très très bien, il fait 4% de rentabilité. Une marque en fait environ 20-25. Donc, et le distributeur, il a des tas de choses à faire, le drive, les panneaux solaires sur son parking, enfin, il a dû être là pendant le Covid, etc. Le producteur, lui, doit gérer l'approvisionnement. Enfin, ils ont tous des gros soucis et tous essayent de garder, de maintenir leur marge, et le distributeur d'en trouver des nouvelles. Alors, c'est un autre débat, hein. Mais donc, l'équilibre entre producteur et distributeur doit se faire. On voit que dans d'autres pays, elle se trouve par l'assortiment, par les deals qu'ils font sur la production. Enfin, tout ça est très complexe. Mais la France est en train de regagner le retard qu'ils avaient les années antérieures.
Si on ouvre justement le chapitre, parce que vous disiez que vous êtes dans 45 pays de mémoire, ça veut dire qu'on parle de la France. Et donc, du coup, ce qui est toujours intéressant, c'est de se dire, puisque vous avez, je ne sais pas si vous appelez ça un palmarès, mais en tout cas, dans chacun des pays, effectivement, des produits élus de l'année. Est-ce que vous constatez des grandes disparités entre, alors soit, allez, je vais être un peu caricatural, Europe du Nord, Europe du Sud, et la France par rapport peut-être à d'autres pays. Finalement, si on prend un regard un peu plus éloigné que notre auto-centrage sur la France, est-ce que les consommateurs, globalement, élisent à peu près les mêmes produits partout?
Ouais, c'est ça. En fait, non seulement les consommateurs aiment ça et vont vers ça, mais la globalisation du monde, elle est réelle. Alors, il y a des effets nationaux. On mange beaucoup plus de charcuterie dans les pays de l'Est, etc. Bon, ceci étant dit, si vous regardez la France, le pays de la gastronomie, ou en tout cas, on a cet historique. Mais bon, on mange pas forcément mieux en France qu'ailleurs, et c'est quand même un pays de la malbouffe avec beaucoup de produits, comment dire, transformés. Et bon, il y a de la viennoiserie, mais elle n'est pas forcément toujours de qualité, etc., etc. Donc, on a par exemple en Italie beaucoup plus de petits commerçants, voilà, beaucoup moins de grandes surfaces. Donc, le Français achète beaucoup en hypermarché. Toutes les grandes marques font près de 50% de leur volume dans les hypermarchés. Donc, voilà. Mais il y a quand même une récurrence. Alors, il y a des délais aussi. On voit des nouveautés qui arrivent 2-3 ans après dans certains autres pays. Il y a des pays plus petits qui sont plutôt des distributeurs que des producteurs locaux qui n'ont pas de représentation. Donc, il y a des changements. Mais on voit quand même assez bien la même tendance. On voit des tendances lourdes, hein. Aujourd'hui, on est à fond dans le végétal. Tout ce qui est végétal, viande végétale, enfin, tout. Les laits qui ne sont plus des laits, qui sont à l'avoine, à tout ce que vous voulez. On voit une absence totale cette année de nouveautés bio, parce que le bio...
Donc vous voyez en direct, en fait, ce que l'on suit sur notamment les chiffres d'affaires, ouais, du bio qui s'effondre. Là, vous le voyez, à chaque palmarès, vous avez une photographie.
À fond, à fond. Ouais. Et c'est très frappant. Donc, on le voit, on voit en effet dans le monde entier les tendances. Elles sont assez corroborantes et...
Assez généralisé, finalement, effectivement, par rapport à l'ensemble des pays, et pas trop de distinctions.
Absolument, absolument.
Pour terminer, Philippe, si vous aviez, une recommandation aux gens et aux retailers qui nous écoutent par rapport à la dynamique que vous portez, et en particulier en France, est-ce que quelle serait-elle par rapport à la... globalement à la situation du retail français, et en particulier par rapport à l'activité que vous portez et au regard que vous portez sur la France?
Mais je dirais, en général, de grâce, arrêtons les combats, collaborons au profit du consommateur, au profit de quelque chose de meilleur, et surtout ne laissons pas aller à cette attitude de défaitiste face aux permacrises, hein. Permacrise, on entend ça, la crise permanente, c'est une réalité. Ça ne va pas si mal qu'on le dit. Franchement, soyons positifs. La France, franchement, moi qui ai un regard d'étranger habitant partiellement en France, quel magnifique pays, quelles magnifiques opportunités que l'on gâche parfois en étant un peu trop bougon. Donc soyons positifs. Il y a des innovations extraordinaires. On a un rôle à jouer. La France a un rôle à jouer à tout point de vue, hein. C'est pas seulement la plus belle ville du monde qui devient peut-être un musée pour certains, mais c'est une réalité. C'est la diversité des paysages. Franchement, moi qui voyage chaque année dans tous les pays où nous sommes, magnifique, magnifique pays, diversité. Donc, de grâce, regardons ça, collaborons pour être plus forts. Dans le petit pays où je vis de temps en temps, qui est la Belgique, on dit l'union fait la force. On l'applique pas du tout chez nous, mais au moins on pourrait le vendre aux Français parce que c'est tellement plus fort quand on est uni et quand on est fort. Donc la distri, les producteurs, tout le monde, il y a moyen de bien
Un peu
collaborer.
plus de
Voilà,
collaboration, un
voilà.
peu plus de collectif et un peu moins d'agressivité.
Voilà. Et
Permettrait au retail français d'être hyper
ne
fort.
mettons pas les médias qui, désolé, font de moins en moins leur travail comme arbitre d'un combat qui ne devrait pas avoir lieu. Voilà. C'est tout ce que je dis à ce stade. Et puis, comme vous savez, aujourd'hui, notre monde est quand même loin d'être en paix. Et ça sert à rien de mener des combats, même si c'est pour la bourse ou pour d'autres, ça peut être bénéfique de temps en temps. Il faut, vous savez, il y a un éléphant dans le magasin de porcelaine où on l'a vu, hein, récemment dans notre métier du retail. Il y a certains qui lancent des trucs qui leur reviennent en boomerang. Faire très attention. C'est très complexe. Allons-y ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté. Moi, je rencontre des gens formidables. Allons-y, quoi. Faisons mieux pour tout le monde.
Super. Merci Philippe pour ce partage et ce retour effectivement d'expérience par rapport à Élu Produit de l'année. Sur quel réseau social on peut vous suivre? Alors vous Philippe ou Élu Produit de l'année?
Ben, là, j'ai tout coupé sur X, ex Twitter. Parce que je
Oui.
suis effaré de la dégradation de ce. Donc c'est fini, on n'y est plus. Ouais. Moi, j'y suis plus. Je resterai fan de LinkedIn parce que c'est. Voilà.
Très bien.
On utilise Facebook pour. Mais c'est très compliqué parce que nous, ne se,
Pour les
ne, oui,
consommateurs.
et puis nous ne nous exprimons pas pour les marques. Hein. Nous disons, voilà, c'est Élu. Dès qu'on dit qu'il y a un produit Élu, il y a 200 types qui commencent à insulter tout et donc on est, voilà, c'est compliqué. On va Instagram, on est prudent parce qu'encore une fois, c'est aux marques à faire ce travail-là. Nous, on leur donne un outil, mais on donne
Bien
pas
sûr.
l'artisan pour le manipuler.
Très bien. Et de mon côté, je vous invite à suivre l'agence Altaviaora sur nos réseaux LinkedIn et Instagram. Pas de Twitter de notre côté non plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous et surtout mettez les 5 petites étoiles dans la note de ce podcast. Ça nous fait vraiment, sincèrement, toujours plaisir. Et puis vous dire que c'est un moment un peu particulier pour moi parce que c'est la dernière émission Retail Session que j'anime. J'ai eu le plaisir de la démarrer en mars 2020. Et oui, souvenez-vous, mars 2020. Donc voilà, c'est avec grand plaisir que je cède maintenant la place à un autre animateur. Longue vie à la Retail Session et à très bientôt.